Bonjour, ici Gras pour les Dubitaristes. Qu'êtes-vous en train d'écouter ? Il s'agit d'une série d'interviews réalisées durant l'été 2021, dans le but très méta de questionner le scepticisme. Notre association, les Dubitaristes, se revendique de l'esprit critique, mais nous savons que nous n'en sommes pas experts et expertes, et que la communauté zététique n'en est pas gardienne. C'est pourquoi je suis allé trouver des personnes plus ou moins proches de la zététique, certaines ne connaissaient d'ailleurs pas le terme, pour parler de l'esprit critique avec elles. Les thèmes évoqués varient bien sûr selon les personnes, mais la discussion reste orientée vers les représentations biaisées qu'on peut avoir de l'esprit critique, sur des dérives de ses usages, sur des aspects problématiques liés à la communauté elle-même, bref, des critiques. Je salue au passage une partie des productions critiques du scepticisme et de la zététique, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la communauté. Petits avertissements avant de commencer. Les projets de notre association sont acceptés en collectif, mais les prises de position individuelles n'engagent pas le collectif. Dans cette émission, ma parole reste donc la mienne. Et je vous prie d'excuser mon amateurisme en matière d'interview et de production audio, j'espère que l'émission restera agréable à écouter. Pour cet épisode, nous sommes avec Perrine, qui pratique l'esprit critique à travers le théâtre, le questionnement politique et l'éducation populaire. Sur ce, bonne écoute et que le doute soit avec vous.
Alors, je suis Perrine et j'ai cofondé la compagnie Sur nos gardes en 2015. Voilà, on fait du théâtre et une de nos lignes directrices, c'est beaucoup de parler du réel et de, justement, on aime à dire parler des choses qui fâchent parce que je crois qu'on n'a pas trop trouvé encore exactement comment le formuler bien, mais on aime aborder des sujets qui questionnent et qui parlent de notre monde, quoi, qui posent problème. Voilà. Et par ailleurs, on bosse beaucoup avec des jeunes, avec des ados, avec qui on fait de l'éducation populaire beaucoup, articulée avec de la pratique théâtrale.
T'as dit le nom de ta troupe ?
Ouais, Sur nos gardes, ça donne un peu la couleur de...
Ouais, carrément. Et où est-ce que tu te situes par rapport à la sphère sceptique, si ce terme t'évoque quelque chose ?
Ouais. Moi la question du scepticisme, ça me parle, je pense que c'est quelque chose que moi personnellement j'applique dans mon existence, sans doute mal parfois. Je pense que c'est pas hyper théorisé dans ma tête et c'est des choses que j'ai apprises parce qu'on me les a transmises dans le cadre interpersonnel de copains. Voilà, du coup j'ai du mal à dire comment je me situe par rapport à ça, mais plutôt... Je crois que c'est quelque chose que j'essaie de transmettre, notamment avec les jeunes, comme on est critique de tout ce qui est possible, notamment vis-à-vis de l'éducation nationale, qui a tendance à donner des grandes vérités toutes faites et qui permettent pas exactement aux mômes de questionner le monde dans lequel ils vivent et de se situer personnellement, quoi.
Et le mot zététique, ça t'inspire quelque chose ?
Ça m'inspire des chatouilles, un peu. Ouais, le mot zététique, ça m'inspire. Moi, j'ai pas mal regardé les vidéos d'hygiène mentale. Je les ai toutes vues. Voilà, que j'aime beaucoup. Ouais, je trouve que c'est une discipline qui est amusante et qui est stimulante dans ce qu'elle propose de réussir à être critique des chemins un peu faciles qu'on pourrait emprunter sur les questions paranormales. Voilà, je sais pas si ça m'évoque grand chose de plus que ça. Mais... je réfléchissais, bah si, ça m'a traversé il y a pas longtemps avec des copains. C'est l'espèce de jeu qu'on peut faire en famille ou avec des amis, un délire de magnétisme où à quatre personnes, il faut soulever quelqu'un juste du bout des doigts, une personne qui est assise. Et donc on le fait une première fois, on n'y arrive pas, ensuite tout le monde empile ses mains au-dessus de la tête de la personne, et on recommence, et là on arrive à la soulever. Du coup, je me dis... C'est con ce truc. Je me dis même pas c'est con en fait, je me dis pourquoi ça marche. Et du coup, je vais chercher pourquoi ça marche et en fait, l'explication elle est toute simple. C'est que la première fois, personne n'est coordonné puisque de toute façon, on sait qu'on va pas y arriver. Tout le monde part du principe qu'on va pas y arriver. Et ce moment de pseudo-magnétisme, d'empiler les mains au-dessus de la tête de la personne, permet juste un temps de concentration en groupe. Et quand on va le refaire la deuxième fois, on va faire un décompte. Et du coup, juste les gens seront coordonnés. En fait, si on fait les calculs aussi, si la personne qu'on essaie de soulever, elle fait 100 kilos, ça fait plus que 25 kilos par personne à soulever. Ça, tout le monde en est capable. Donc en fait, je trouve ça vraiment hyper excitant de me dire les explications scientifiques, Elles sont trop géniales, c'est hyper stimulant d'expliquer comment fonctionne le monde. Je trouve ça tout autant stimulant que de s'imaginer qu'il y a des forces obscures qui nous entourent et qui nous permettent de faire des trucs incroyables. Non, en fait, on peut déjà faire des trucs incroyables parce que 100 kilos divisé par 4, bah, c'est facile, quoi, en étant bien coordonné.
Ça, c'est intéressant, le fait que zététique, ça t'évoque quelque chose qui est peu relié à la politique ou à des, on va dire, des grandes questions sur l'organisation sociale ou quoi. Parce que la zététique, si c'est aussi l'esprit critique plus généralement, ça ne devrait pas que s'appliquer à des questions de paranormal ou de physique, quoi.
Mais moi, j'avoue, je croyais que c'était même plutôt vraiment la définition de zététique. Pour moi, la zététique, c'est vraiment l'esprit critique appliqué à ces questions paranormales. Et effectivement, pas tellement à d'autres questions, quoi. Pas l'esprit critique en général.
Ouais, bah, c'est l'usage qu'en font beaucoup de gens qui parlent de zététique, justement. Bah, on peut parler un peu de ce que vous faites au théâtre.
Ouais.
Du coup, de ce que fait Sur nos gardes.
Sur nos gardes a commencé sa vie de compagnie avec un spectacle qui s'appelait Une pute au coin de la rue, qui donc, je te le donne en mille, parlait de prostitution, avec un point de vue et hyper situé et hyper assumé sur la question du travail du sexe, avec plein d'autres problématiques et d'impensés à l'intérieur de ce spectacle dont je parlerai pas forcément, dont on pourra parler, mais j'ai été très critique de ce spectacle après coup. Mais en tout cas, sur la question de la prostitution, on a adapté deux bouquins. Un récit autobiographique qui s'appelle « Le noir est une couleur », écrit par Griselidis Réal, voilà, qui est une autrice qui est morte en 2005, donc quand même plutôt une autrice contemporaine, qui se revendiquait écrivain, peintre et prostituée. C'est d'ailleurs son épitaphe à Genève. Et on a aussi adapté un bouquin qui s'appelait « Carnet de bal d'une courtisane ». En fait, elle a publié le répertoire qu'elle tenait de ses clients avec nom ou surnom, âge, un petit commentaire sur la personne, qu'il soit physique, ou ce qui s'est passé, ou ce qu'elle en pense, et un descriptif de ce qu'elle leur a fait, ce qu'il lui a fait, et de combien ils ont payé. Donc ça a fait un grabuge monstre, parce que des femmes ont reconnu leur mari, les autres putes ont dit « mais comment ça, tu parles d'argent ?» Impossible de venir parler d'argent. Et à la suite de ce répertoire-là, il y a des textes qu'elle a publiés en plus. Voilà, et nous, on est tombés amoureuses de la poésie de cette autrice-là. Parce que vraiment, je conseille à tout le monde de lire ça, tout en étant critique, d'ailleurs. Mais la poésie est vraiment très belle, et bref, on adapte cette chose-là, et nous, avec vraiment la proposition de... Il n'y a pas de jugement moral à porter sur la prostitution. On pense que chacun doit être libre, je mets des énormes guillemets, de faire ce qu'il ou elle veut de son propre corps. Surtout que nous, quand on parle de travail du sexe, en fait, au départ, on parle de travail, en fait. Et je pense qu'on n'est pas plus libre d'être pute qu'on est libre d'être banquier ou banquière ou assureur ou keuf. Voilà, je pense que dans tous les cas, on vend sa force de travail. Et du coup, ce qui sous-tend la prohibition autour de la prostitution, c'est parce qu'on a un jugement moral sur ce qu'est l'intimité sexuelle et ce qu'est vendable ou non. Alors qu'on nous vend quand même des trucs incroyables, on a vendu du temps de cerveau disponible, et ça ne nous choque pas. Voilà. Et du coup, autour de la prostitution, il y a plein de choses à dire, mais voilà, donc nous, on a fait ce spectacle-là, vraiment en adaptant les bouquins, et on avait décidé, à l'issue du spectacle, de donner le manifeste du STRAS, qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, qui a un manifeste en plusieurs points qui revendique la prostitution et prend position là-dessus. Et du coup, ça nous importait d'apporter en parallèle du spectacle, vraiment à l'issue, après avoir proposé cette forme artistique, où du coup, forcément, il manque plein de choses, parce que tu proposes 1h15 de spectacle, donc tu peux pas tout dire, et puis la poésie empêche d'aller loin dans la formulation de la pensée, enfin d'aller plus loin, bref. Et du coup, voilà, ça nous tenait à cœur de dire aux gens, voilà, nous on vient parler de prostitution, mais rappelons-nous, ça existe, des gens militent pour ça. Voilà. Et par ailleurs, dans ce spectacle, on faisait aussi intervenir, je parlais au début du réel, de dire qu'on aime bien être aux prises avec le réel et dans le thème et dans la forme. on avait proposé à des amateurs, des gens qu'on connaissait plus ou moins, de participer en amont à un temps d'atelier d'écriture avec nous. Et il y avait un moment où ils sortaient du public pendant le spectacle et où ils venaient sur le plateau raconter leur propre expérience qu'ils avaient de la prostitution, en tout cas leur regard, pas tellement leur expérience, mais voilà, et du coup c'était intéressant, il y avait plein de points de vue, il y avait une nana qui venait juste pour dire, bah moi je sais pas, en fait je sais pas quoi penser de ça, vraiment, ça me laisse perplexe. On avait une dame de 50 ans qui venait en disant, mais moi, plutôt elles me font pitié, en fait, moi le seul moment où je me rends compte qu'elles existent, c'est quand je suis bien au chaud dans ma voiture, l'hiver, et que je les vois là, sur les boulevards, à moitié nues, et elles plutôt, elles pensent aussi à la traite d'êtres humains, au proxénétisme, qui existe, bien sûr, mais bon, il y avait toutes ces expériences différentes, tous ces points de vue-là.
C'est un outil d'éducation populaire, en fait, qui permettait une sorte de recul sur la vision qu'on a tous de ce phénomène.
Oui, en quelque sorte, ouais, ouais. Et puis il y avait le temps de travail d'écriture ensemble, il permettait déjà un petit débat en interne, un partage d'expérience, etc. Nous, on vient aussi apporter une forme de connaissance à ce moment-là, après coup, avec le manifeste du Stras. C'est vraiment ouvrir des portes, quoi. Et ce qui nous importait d'en faire venir du coup ceux et celles qu'on appelait les passants et les passantes, qui venaient parler de leur regard sur la prostitution, c'était aussi de rappeler au public, de donner plusieurs paroles en fait. On donnait la parole à la pute par l'intermédiaire de la mise en scène et de la comédienne, mais on venait porter cette parole qui a été publiée. Et puis on proposait au kidam, quoi, vraiment comme c'était une proposition de confronter les points de vue, ouais. Et aussi une façon de pas trop culpabiliser. Parce que le spectacle, je pense, peut être hyper frontal, hyper trash dans ce que ça raconte. L'histoire de Griselidis, en vrai, elle est aussi remplie de violence, quoi. Vraiment, on n'est pas du tout en train de dépeindre une espèce de vie idéale de la pute à qui il n'arrive jamais rien. C'est difficile dans notre monde qu'il n'arrive rien à une pute, de toute façon. Ça proposait ça, quoi. De venir mettre un contrepoint, proposer d'autres paroles et de rajouter du vrai aussi.
Et là, vous avez une autre pièce que vous faites depuis un bon moment.
Ouais, ça s'appelle « Paye ton adolescence, souvenir d'inadéquation ». Ça, c'est une écriture de plateau et c'est une écriture collective. On est 4-5 à l'avoir écrit et à le jouer. Pour l'histoire un peu de ce spectacle, c'est une commande d'un collège, le collège de Blaye, qui nous a donné carte blanche pour le 8 mars 2017. Les CPE avaient organisé plein de choses autour de la question des droits des femmes pour cette journée. Voilà, il nous a proposé un spectacle. Là, on s'est dit, merde, comment on va faire pour parler de droits des femmes à des ados en étant suffisamment intéressant et intéressante sans qu'ils aient l'impression que nous, on les prend à moitié pour des débiles, ou l'inverse, que eux et elles nous prennent pour des cons parce qu'on serait complètement en décalage. Bref, c'était un peu la panique. Et puis finalement, on s'est dit non, mais nous, ça nous intéresse pas de venir leur redonner les grandes dates qui jalonnent l'incroyable histoire des droits des femmes, venir parler du droit de vote, ça nous stimulait pas des masses, bon voilà. Et en fait, on s'est dit non, ce qu'on va faire, c'est de parler du monde patriarcal, en gros, et de venir parler des rapports de genre et du sexisme dès l'adolescence, parce que après notre panique, on s'est un peu calmé. On s'est dit, en fait, on a à peine 20 piges, notre adolescence, elle est pas très loin, voire elle est pas vraiment finie. Donc ça a commencé par une espèce de thérapie de groupe où on s'est raconté, nous les meufs et Léo, ce qu'on avait vécu dans notre adolescence, comment on s'était comporté, comment on avait adhérer à des codes genrés, évidemment, voilà, les violences subies, etc. Et on a créé le spectacle sur cette base-là, qui est du coup un spectacle d'une cinquantaine de minutes, qui est une suite de tableaux thématiques, donc on ne suit pas des personnages, on ne suit pas une fiction. Tout est amorcé par des anecdotes, dites par les comédiens et comédiennes, qui sont toutes vraies, qui ne sont pas toujours portées par la personne qui l'a vraiment vécu, etc. Ça, nous, on laisse un flou sur cette vérité-là. Et ensuite, du coup, on a un tableau sur les règles, on a un tableau sur le rapport à son propre corps et l'influence du groupe sur notre rapport à notre propre corps. du groupe et du monde. Une scène qu'on appelle la scène de la soirée, mais qui en fait est un prétexte à amener un temps de non-consentement avec un récit après coup d'un moment non consenti, qu'on peut appeler une agression sexuelle, d'une certaine manière. Il y a un flou là-dessus. Nous, on parle d'un moment non consenti, on ne veut pas donner de détails de qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a un peu, mais il y a vraiment des portes ouvertes à se projeter dans ce moment-là et dans les autres. Il y a une scène ensuite sur les débuts du désir. Voilà, comment quand on a 14 piges, des fois juste on s'est frôlé dans un mouvement hyper anodin et en fait ça nous a traversé de partout et on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi j'ai des papillons dans le ventre? Voilà, et cette scène-là, on l'a volontairement écrite, mais parce que l'histoire vraie du départ s'est passée entre deux filles et on a tenu, parce qu'on parle pas du tout de questions de sexualité, d'orientation sexuelle. On parle de sexualité, mais pas d'orientation sexuelle. Voilà, et du coup, ça nous intéressait que ce soit juste comme ça, comme une possibilité, quoi. Là, c'est deux filles, et puis voilà, pas commenté. Une scène sur la pornographie, une scène sur la masturbation des filles. Voilà, et ça se termine par une lettre à nous-mêmes, ados, ce qu'on aimerait se dire maintenant qu'on a un peu d'expérience et qu'on a vécu des trucs, ce qu'on aimerait dire au nous d'il y a quelques années. Et à l'issue de ça, nous, on propose, les comédiennes et le comédien, un temps de médiation d'à peu près une heure avec les groupes où il n'y a que nous. On ne veut pas qu'il y ait les profs, les CPE, toute personne de pouvoir et ayant un pouvoir coercitif sur les jeunes n'est pas bienvenue dans ce temps-là. Ça nous importe que la parole elle soit vraiment hyper libre, aussi pour que puissent survenir les éclats, aussi les insultes, qui sont quand même très riches à questionner et à critiquer. Moi, j'adore entendre un enculé ou un fils de pute pour questionner pourquoi c'est problématique d'être un fils de pute. C'est juste quelqu'un qui travaille. Un enculé, je me suis retrouvée à dire ça à un jeune une fois, à dire, mais un tas de gens se fait enculer et adorent ça. Et le monde te regarde avec des yeux complètement écarquillés. Ben quoi, c'est toi qui viens de le dire. Moi, juste, je rappelle que la sodomie est une pratique sexuelle et que tant que tout le monde est d'accord, c'est quand même a priori un bon moment, quoi. Et du coup, par cette espèce de jeu un peu de choqué comme ça, du coup, on réentend les mots, en fait, aussi. Et on se rend compte que, ah oui, enculé, quand il le dit, il sait même pas ce que ça veut dire. Enfin, il le sait au fond, mais il le questionne pas, quoi. Et du coup, ça, c'est des portes qui sont marrantes. Quand il y a les profs, en général, c'est d'abord un tacle et du coup, on n'a pas cette porte-là. Et du coup, l'objectif de ces ateliers de médiation, c'est de s'assurer que tout a été bien compris dans le spectacle, d'une part, aussi parce qu'on voulait pas s'empêcher de la poésie, pas s'empêcher des images, etc., et qu'on se dit, ok, si les jeunes passent à côté de certains trucs, puisqu'on joue de la quatrième à la terminale, et des fois, il y a aussi un peu des plus jeunes, donc parfois, il y a des incompréhensions. Et c'est aussi un moment qu'on veut, nous, comme un endroit au-delà de la compréhension, un endroit de débat et un endroit de partage d'expérience. Et vraiment, là, dans la forme, nous, on utilise des outils d'éducation populaire, du coup, où on laisse tout le temps les jeunes se donner les réponses. Entre elles et entre eux, nous, on arrive en queue de comète, quoi, pour donner l'info ou donner la définition, si elle n'est pas sortie, si elle est incomplète ou erronée, apporter des chiffres, etc., des choses qu'ils peuvent ne pas avoir, mais... Mais sinon, entre eux, ils savent et ils se donnent les réponses. Et c'est très chouette de les voir partager leurs expériences. Le truc que je te racontais un peu la dernière fois, on a commencé donc à jouer ce spectacle en 2017. Et les temps de médiation, il y avait tout à faire, quoi. Les mômes, ils savaient rien, entre guillemets. Enfin, ils comprenaient, mais le consentement, tu mettais bien 20 minutes à voir le mot advenir. Et puis c'était nous qui le donnions. Bon, voilà. Et puis plus on l'a joué, plus on a rencontré des groupes, plus on se rendait compte qu'ils avaient la bonne réponse, puis ils l'avaient direct, quoi. Et en fait, bah oui, la question du sexisme, des questions de genre, est devenue à la mode. Dieu merci, c'est vraiment super. Dans plein d'établissements, il y a des espèces de temps de travail, je sais pas si on peut appeler ça de formation, mais bon, de sensibilisation en tout cas, où on propose aux jeunes de parler de ça, et puis... On leur donne des chiffres, donc ils définissent hyper bien le consentement. Plus les années passent, plus ils vont loin sur cette définition-là. La zone grise, souvent, ils sont capables d'en parler aussi. Bon, voilà. Et du coup, ça nous a quand même fait nous retrouver face à des hordes entières de garçons qui nous disaient Ah non, mais moi, les règles, pas de problème avec ça, quoi. Il n'y a pas de tabou, bien sûr, c'est naturel, toutes les filles ont leurs règles, c'est ok. Vraiment, les premières fois, on se disait, waouh, mais en un an, les mômes de 15 piges sont les meilleures féministes qu'on ait jamais vues. Non. Puisque à ce moment-là, quand le petit jeune est en train de dire « Ah non, mais les règles, aucun tabou !» et que toi, tu tournes la tête, en fait, tu vois les filles se prendre la tête dans les mains et elles commencent à monter en pression et souvent, t'entends « Ah oui, mais toi, putain, tu parles, mais en fait, dès qu'on a nos règles, t'es le premier à faire chier, t'es le premier à faire un sale commentaire !» Ah, et oui, en fait, vous avez la bonne réponse, parce qu'on vous a apporté les bonnes réponses et du coup, tant mieux que ça commence par ça. Par contre, on se rend compte qu'il y a un fossé entre ce que vous savez être le juste, ce que vous pensez être le juste, ce qu'on vous a partagé sur ces questions-là, et comment c'est dans votre vie. Et évidemment, c'est pas parce que t'as eu 3 heures de sensibilisation aux questions sexistes, que tu l'as bien appris par cœur comme un cours de maths ou comme un cours d'histoire, que ça a un impact réel sur ton existence, quoi. Voilà, et du coup, nous, on vient travailler ces choses-là, et aussi, du coup, là, plus le temps passe... plus on pointe ce genre de dissociation, quoi, entre guillemets. Et c'est intéressant, je pense que c'est vraiment confrontant pour les jeunes, mais pareil, avec les années, on s'est rendu compte. Je dis avec les années, je fais des grandes généralités, et je dis les jeunes, vraiment, je rencontre des individus avec des parcours très différents, et je rencontre des groupes qui sont eux aussi très différents. Bon, voilà, donc ça change tout le temps, c'est vraiment tout le temps différent. Mais souvent, les filles prennent de plus en plus la parole. Toujours beaucoup moins que les garçons. Toujours. Mais on sent que ça crée des espaces, quoi. Et on sait aussi que ça va créer des espaces de parole et de débat dans l'après-coup. Que nous, on vient vraiment ouvrir des portes, proposer des trucs et on donne une base à rediscuter et re-questionner tout ça.
Oui, quand tu dis que année après année, vous avez vu les notions que vous vouliez traiter, comme je sais pas, le consentement... Ouais. La prise de parole égalitaire, le tabou sur les règles, la masturbation ou quoi, évoluer, mais que finalement c'était pas forcément bien intégré, le fait que les filles se facepalment quand les garçons prétendent avoir du recul sur tel ou tel sujet. Est-ce que ça viendrait du fait que ces notions sont enseignées dans un cadre institutionnel et que du coup ça. Elles sont enseignées de manière lacunaire ou partielle ou dans un certain cadre qui brime en quelque sorte l'esprit critique?
Oui, je pense. Alors, du coup, t'as un peu dit deux choses. T'as d'abord dit dans un cadre institutionnel, et ensuite t'as plutôt parlé des méthodes de l'institution, et je pense que c'est deux choses différentes. Moi, quand j'interviens avec Pays ton adolescence, j'interviens dans un cadre institutionnel. Hein. Je vais être dans l'éducation nationale, je suis dans ce cadre-là. Par contre, mes méthodes sont pas celles de comment on apprend les choses aux jeunes, au collège, au lycée... Et du coup, oui, je pense que c'est un problème de méthode, puisque vraiment, on leur... de nouveau, je reborne ce que je dis, je fais des grandes généralités, des tas de profs et d'infirmières font vraiment un boulot qui est super et utilisent aussi des méthodes d'éducation populaire, etc. Mais oui, souvent, c'est comme un cours. Et en fait, je pense que aussi la réception des jeunes, elle est différente quand nous, on déboule en tant que comédienne pour venir parler de ces choses-là après qu'ils aient vu un spectacle, que quand c'est l'infirmière qui vient faire un truc, enfin c'est déjà biaisé de départ. Mais je pense que du coup, il y a aussi vraiment une nécessité que ces questions-là, elles soient pas travaillées sur des temps donnés. Enfin, pas seulement, en tout cas. Il faut que ce soit un travail au long cours. Il faut que tout le monde soit sur le pont tout le temps pour relever les agressions sexistes, voire... ne pas les véhiculer. Moi, je me suis déjà retrouvée dans un établissement scolaire dont je tairai le nom, bien évidemment, où je suis invitée par une infirmière qui fait un boulot monstre avec les jeunes sur les questions sexistes, qui le fait hyper bien, qui nous a programmé tous les ans depuis que ce spectacle existe. Et par ailleurs, dans le règlement intérieur du collège, les gamines n'ont pas le droit d'être en débardeur, n'ont pas le droit d'être en short, et elles pètent les plombs. Et du coup... il est possible d'avoir ces deux choses-là. Il est possible que notre spectacle, qui dit précisément l'inverse, et qui vient proposer tout à fait un autre projet de société à cet endroit-là, soit programmé dans l'établissement scolaire, qui, lui, interdit aux gamines de porter des débardeurs et de porter des shorts. Bon, voilà, là, du coup, sur la question du cadre et des méthodes, on sait plus où donner de la tête, quoi. Ça n'a aucun sens, mais parce que même un collège, en fait, c'est déjà une grande institution. et que y a plein d'impensés. C'est-à-dire que l'infirmière, bien sûr que quand elle monte le projet pour nous faire venir, elle le fait valider par l'administration, mais en même temps, c'est bien pour le collège, c'est bien pour les gamins. Et je pense que quand c'est écrit dans le règlement scolaire qu'il est interdit de venir habiller de cette façon-là, c'est aussi à moitié des questions morales, et aussi pour dire de toute façon c'est pas comme ça que vous vous habilleriez dans une entreprise. Et que je pense que c'est peut-être même pas conscientisé comme quelque chose de sexiste. C'est ça le pire. Mais du coup, c'est en fait, il y a déjà une hiérarchie qui fait que ça vient pas du même endroit. L'infirmière, elle, qui m'invite et qui connaît le projet, qui a vu le spectacle, elle est complètement remontée contre cette idée que les gamines ne doivent pas venir en débardeur ou en short. C'est pas la même personne. Quant au principal qui autorise que le spectacle soit là et co-écrit le règlement intérieur, lui, il a jamais vu notre spectacle, hein. Il sait pas ce qu'il y a dedans, évidemment. Enfin, et comme dans n'importe quel établissement, souvent, les dirigeants ne voient pas notre travail. Du coup, oui, je pense que pour vraiment finir de répondre plus précisément à ta question, je pense que c'est beaucoup une question de méthode, quoi. Et que, effectivement, ces méthodes-là, elles viennent exclusivement apporter de la connaissance d'un point de vue extérieur et permettent pas aux gamins de le mettre en parallèle avec leur vie. Mais parce qu'en fait, on s'intéresse assez peu, dans l'éducation nationale en général et à l'école, à qui sont les individus en face de nous, qu'est-ce qu'ils traversent. Par ailleurs, je pense que c'est vraiment très trash d'être prof dans l'éducation nationale. Je pense que c'est vraiment dur pour plein de raisons. Je pense qu'on est vite dépassé. Mais ouais, il n'y a pas assez d'intérêt pour l'expérience vécue, quoi. C'est pas ça qu'on vient travailler dans ces moments-là, en fait.
Alors, comment formuler ma question par rapport au fait que les outils d'éducation populaire et s'intéresser au vécu des personnes, aux anecdotes qui peuvent sortir sur leur vie. En général, quand on parle d'esprit critique, on est sur des trucs très abstraits, on dit l'anecdote, c'est pas une preuve, le témoignage n'est pas une preuve, il nous faut des données, des trucs objectifs. Et pourtant, vous vous basez beaucoup, pas exclusivement, mais beaucoup sur des anecdotes et du vécu pour démonter des présupposés et finalement en faire une démarche d'esprit critique.
Ouais, et ben en fait, dans le cadre du spectacle Paye ton adolescence et en médiation, il y a plusieurs choses. C'est que en fait, nos anecdotes, on les présente comme des anecdotes, mais elles sont. En fait, on sait très bien. Alors, on n'a peut-être pas exactement les chiffres, même si l'organisation du monde en tant que système patriarcal n'est plus approuvée. Voilà, on sait très bien malgré tout, et c'est aussi comme ça sur les questions féministes qu'on a pu avancer, c'est qu'en fait, comme de toute façon, personne ne s'inquiète de ce que peuvent vivre les femmes en termes d'agression sexiste, personne ne s'en est inquiété pendant très longtemps. Le seul moyen qu'on a eu, nous, de se rendre compte et de chiffrer, alors je dis « nous », c'est ce grand « nous les femmes » depuis toujours, en fait, c'est de se parler. C'est-à-dire que oui, on en a des chiffres bien planqués sur les agressions sexuelles, les viols, etc. Ils existent, et en vrai, ils existent depuis un moment. N'empêche que MeToo nous a quand même fait un sacré bien de se rendre compte que, oh merde, on n'était pas seuls. Bon voilà, et du coup, c'est vraiment comment l'anecdotique, puisque c'est ça, c'est notre vécu personnel, j'ai du mal à appeler ça une anecdote, mais comment... En tout cas, l'événement qui est vécu individuellement dans ta vie, en fait, il est juste... hyper commun. Du coup, par ailleurs, il y a des chiffres qui existent sur plein de questions. Ce spectacle-là, on l'a aussi joué en tout public. Et vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... On sait très bien que ça résonne. Enfin, c'est-à-dire que la vanne sur « Ah, vas-y, t'es chiante, t'as tes règles ou quoi ?» Mais quelle meuf ne l'a jamais entendue ? Enfin, c'est-à-dire que moi, je pense que cette vanne, on est sur un 100%. Alors, c'est « Moi, je pense que, vraiment. » Et peut-être on n'est pas vraiment sur 100%, mais... Bon voilà, en tout cas, il y a vraiment des allers-retours entre les deux, puisqu'on sait que on sait qu'il y a un vécu commun à plein d'endroits. En fait, on sait que les agressions sexuelles, fort malheureusement, c'est un vécu commun. Et on est bien trop nombreuses. Et on les a, par exemple, là, les chiffres des agressions sexistes dans les transports en commun. On est presque sur un 100%. On n'est pas loin. Bon voilà, du coup, c'est vraiment entre les deux... Mais ça s'accompagne, quoi. Voilà. Et en médiation, on donne particulièrement de chiffres, mais qui... Tu te retrouves dans des situations bizarres où tu dois expliquer à des gamins combien ça représente de stades de foot, le nombre de violeurs non condamnés, quoi. Par exemple.
Alors, parlant d'anecdotes, je crois que tu avais des trucs intéressants à dire par rapport au débat mouvant que tu avais organisé. Je pense notamment à un débat mouvant qui avait tourné court.
Ouais. Et ben oui, en fait, le débat mouvant, c'est une proposition que je fais peu. Le principe du débat mouvant, c'est de proposer une assertion extrêmement clivante, volontairement, d'obliger les participants et les participantes à se positionner, d'un côté de la salle étant oui, de l'autre côté de la salle étant non. Dans la proposition que je fais, mais il y a des variantes, il n'y a aucune possibilité de je ne sais pas, et il n'y a pas plus que oui ou non. Voilà, c'est possible de le faire avec 4 propositions, plus de nuances, etc. Moi, j'en propose que 2. Chaque groupe positionné débat pour choisir des arguments pour son camp, puis on les expose, et peu importe dans quel groupe qu'on est, à chaque fois qu'on est convaincu par un argument ou que ça nous fait un peu faillir dans notre tête, on change de camp. Voilà, et donc il est possible, sur un débat mouvant de j'en sais rien, moi, 20 minutes, avoir changé de camp à chaque argument. Donc c'est vraiment un outil qui nous permet de mettre en branle vraiment l'esprit critique et de se rendre compte que les choses sont pas si simples, justement, que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Et donc dans mon cas, je fais assez rarement de débats mouvants, puisque j'utilise d'autres outils en parallèle de ça. J'aime bien quand la discussion, elle se fait d'elle-même, et bon, voilà. Et on n'a qu'une heure de médiation. Et donc, ça va vraiment très vite. Le débat mouvant, c'est un peu mon outil de secours, quoi. Voilà. Il se trouve que c'était pas, tu disais, un débat mouvant qui a tourné court et l'autre qui a été clivant. En fait, non. C'est la discussion qui a tourné court dans ce même atelier. Parce que, donc, on fait réfléchir et débattre les jeunes sur qu'est-ce qui les a marqués dans le spectacle et pourquoi. Ils font ça en petits groupes. Comme ça, ils débattent en petits groupes, puis ils reviennent après en grand groupe. Il se trouve que ce jour-là, il y a une jeune adolescente, je sais plus, là je suis avec des quatrièmes ce jour-là, je crois, ou des troisièmes. Et donc au moment où elle vient redonner le travail de son groupe, elle dit « Oui bon, et moi j'ai aussi un truc à dire, mais bon, c'est pas vraiment rapport au spectacle, enfin si, mais bon, en gros, c'est mon point de vue. » Et en fait, on a à peu près 1 minute 30, elle finit ma médiation, puisqu'elle nous donne une explication claire, concise et parfaite de pourquoi et comment le monde est organisé en tant que système patriarcal. Elle met tous les mots dedans, elle est par ailleurs hyper vénère, hyper tendue. Bon voilà, et elle aurait clairement pu dropper le mic à la fin de son intervention. Et ouais, c'est ça, ça dab, elle claque la porte et elle s'en va. Non. Bon voilà, mais du coup je me retrouve un peu démunie en me disant d'accord, mais en fait elle a plié ce pourquoi je suis là, du coup où je vais quoi. Bon, on réussit à quand même repartir puisqu'il y avait encore plein de choses évidemment à discuter, à penser, sur lesquelles débattre, etc. Voilà, mais bon quand même du coup ce temps de médiation dans ce que j'ai à apporter, les expériences qu'on a à se partager, tourne un peu court quoi, se finit plus vite. Et donc je me dis, super, c'est l'occasion de faire le débat mouvant que je ne fais pas souvent. Sachant que dans le groupe de jeunes que j'ai là, il y a vraiment un garçon et une fille. C'est les deux qui, tu sens, qu'ils ont le plus de facilité à l'oral, qui parlent bien, maîtrisent les concepts, etc. Donc je galère quand même un peu à faire parler les autres. Évidemment, comme tout le temps, dans le groupe des garçons, puisqu'ils s'installent comme ça dans la salle, hein, d'ailleurs, de toute façon, c'est les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Chez les garçons, il y en a beaucoup plus qui vont prendre un peu la parole facilement. Chez les filles, c'est quand même surtout elles qui parlent, ou alors les autres font des petits conciliabules comme ça, et après c'est l'autre qui rend la parole, quoi. Donc je propose mon débat mouvant, et l'assertion est la suivante. Les hommes sont responsables du sexisme. Et la chose à laquelle je m'attends pas, que j'aurais clairement pu anticiper, mais à laquelle je ne m'attends pas, tous les mecs répondent non, et toutes les filles répondent oui. Voilà. Donc, tout le monde se place. Il y a un seul garçon qui m'a demandé s'il pouvait y avoir un « je ne sais pas ». Et comme j'ai dit non, je pense qu'un peu par défaut, il a rejoint les frérots et voilà. Et normalement, c'est un exercice qu'on fait vraiment debout. Là, j'ai vraiment... c'est la guerre des gangs, quoi. Ils sont tous les bras croisés, à moitié affalés sur les tables derrière. Et là, je me dis, merde. Mais en fait, ils vont se foutre sur la gueule. C'est pas possible. Enfin, ils vont se mettre cher, quoi. Donc, je reprécise qu'on n'est pas là pour traiter des questions interpersonnelles, que c'est vraiment l'enjeu du débat d'idées, tout au plus... Des jeux de rhétorique, des jeux de langage, mais voilà. C'est pas un endroit d'affect, et l'objectif, c'est que ce soit un jeu de cerveau et qu'on réussisse aussi à changer de camp, quoi. Bon, je spoil, il y en a pas un ou une qui changera de camp d'ici la fin de ce débat mouvant. Et il se trouve que ce qui est aussi assez intéressant, c'est que, les garçons ayant tous répondu non trouvent de vrais arguments. Pour étoffer pourquoi les hommes ne sont pas responsables du sexisme. Dans les arguments, il y a en fait « nous ne sommes pas seuls responsables du sexisme ». Certaines femmes, beaucoup de femmes, ont aussi intégré des normes sexistes, voilà, qui est intéressant, donc qui permet là de changer de camp. Hein. Bon, personne ne change de camp. Il y a aussi expliquer que les hommes, en tant qu'individus, ne sont pas forcément directement responsables du sexisme, puisque... Le monde, en fait, est responsable du sexisme. La pub est responsable du sexisme, les politiques sont responsables du sexisme. Et du coup, bon, là, dans le fond, ce qui sous-tend, c'est un peu le not all men, mais on va pas si loin avec les jeunes. Et il y a des choses vraiment... Enfin, voilà, ce que je raconte sont des arguments vraiment intéressants sur cette question-là. Et par ailleurs, les filles, mais plutôt malheureusement la fille qui est là, on n'a pas pu se parler en dehors de ce débat mouvant. Moi, j'aurais aimé... Elle était vraiment très très en colère. Et en fait, du coup, elle trouvait pas des arguments... de pourquoi les hommes étaient responsables du sexisme, mais sa position était plutôt à quel point les femmes sont responsables, enfin sont victimes du sexisme, et à quel point dans tous les cas elles le sont beaucoup plus que les hommes. Voilà, et du coup, j'ai dû recadrer cette chose-là en disant tout ce que tu dis est vrai, tout ce que tu dis est juste. Effectivement, les femmes sont beaucoup plus victimes du sexisme que les hommes, même si les hommes aussi, d'une certaine manière, peut-être en creux, etc., mais les hommes aussi le subissent. On va pas sur le terrain de cette chose-là, comme le racisme anti-blanc, on va pas à cet endroit-là, le sexisme anti-mec. Voilà, mais donc il a fallu recadrer, et elle, je sentais qu'il y avait beaucoup de colère, quoi. Et là, comment aussi, justement, ta propre expérience du monde, elle peut te bloquer et faire que... Du coup, t'es moins critique ou pas de la bonne façon ou... C'était quand même intéressant. C'était clair qu'il changerait pas de camp, ni les gars, ni les meufs, mais elle particulièrement, impossible. Impossible qu'elle ait changé de camp. Mais parce que tu sens qu'il y a un vécu et une expérience du monde qui est tellement violente que... Bon, voilà.
Ouais, en fait, c'est pas leur ignorance ou la pertinence de leur argument qui faisait qu'ils étaient dans un camp ou dans un autre, mais plutôt leur vécu personnel, en fait, leur position dans la société.
Ouais, et je pense vraiment à toutes les échelles, mais particulièrement à l'échelle du groupe lui-même. Parce que ça, c'est des trucs qu'on voit se dégager aussi en médiation, c'est-à-dire que tu rencontres des gamins, mais tu rencontres des gamins qui ont, allez, entre 13 et 17 piges, qui sont des ados, en pleine construction d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, dans le rapport au groupe, et tu vois d'emblée... Qui est le petit mariole, qui est le mec populaire, qui est la fille planquée dans le fond de la salle, qui est la grande gueule ou je sais pas quoi. Et du coup, ils performent aussi un peu, d'une certaine manière, la place qu'ils occupent. Et là, je disais, dans le groupe dont je parle, vraiment, il y a un gars et une meuf qui manipulent très bien les mots, etc. Et du coup, presque, si je singe le truc et que je fais la caricature, c'est eux les chefs de gang avec le gang derrière, quoi. Et du coup, on va tenir cette position-là. Parce que c'est aussi une forme d'affrontement dans le cadre du groupe, quoi. Voilà. Et il y avait eu des questions un peu houleuses avant aussi, où j'étais allée un peu loin. Parce que les types, pour le coup, on a des groupes, des fois, c'est rarement moi qui les ai. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment le hasard de la vie. Mais il y a une des comédiennes du spectacle, c'est toujours elle qui se tape les groupes où il y a des mecs qui sont hyper macho, hyper sexistes et qui peuvent être extrêmement violents dans leurs propos et dans leur façon d'être, quoi. Et du coup, voilà, des fois, c'est dur. Moi, j'ai été assez peu confrontée à ça. Et plutôt, là, dans le groupe, du coup, j'ai des gars qui vraiment disent, du haut de leurs 14 ans, mais en fait,
ce qu'il va falloir faire là, c'est lutter ensemble, et la responsabilité, elle est à nous, etc. Vraiment, hein, si je le dis depuis mes mots à moi, c'est un super discours d'allié. Et c'est comme ça qu'ils se placent, et qu'en tout cas, ils savent qu'ils vont devoir se placer, c'est comme ça qu'ils le conçoivent. Ils sont quand même assez scandalisés, je pense, de ce que peuvent subir les filles, en tout cas quand on en parle de cette façon-là, etc. Mais bon, moi j'arrive aussi avec mon bagage à moi, que j'essaie de pas... je tiens mon bagage près de moi, quoi. J'essaie de pas leur laisser trop la colère avec laquelle je peux arriver moi, parce qu'évidemment je suis aussi en colère sur ces questions-là. J'ai quand même plutôt tendance à pas croire les mecs, en général, quand ils parlent. Voilà, je pense que... Moi je me suis fait agresser sexuellement par un type avec qui j'étais en couple, qui le premier soir m'a demandé s'il pouvait m'embrasser. Il connaissait toute la théorie féministe. Et en fait, il m'a quand même agressé sexuellement plus tard dans le cadre du couple. Et du coup, bon voilà. Je trouvais ça important de pouvoir le dire là. De comment, du coup, j'ai ce bagage-là aussi de rencontres avec des mecs féministes qui se disent alliés et qui, en fait, justement, utilisent cette force de connaissance de nouveau comme un pouvoir et au service de leur race d'agresseurs. Du coup, j'essaie de faire vraiment attention à ça, quand je suis avec les jeunes, de vraiment pas le... C'est vraiment mon point de vue qui, je pense, est trop très radical, et je pense que j'ai pas à porter ça auprès des jeunes, justement. C'est, je pense, là où... Enfin, la critique, elle leur appartient. Moi, je dois leur montrer comment ils peuvent être critiques, et du coup, là, c'est ça. Si je reviens à l'anecdote juste avant, donc cette bande de jeunes garçons qui se présentent vraiment comme des alliés, j'ai ressenti le besoin de demander aux filles où est-ce qu'elle mettait, pour elle, le curseur de sincérité des garçons. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, les filles, quand vous entendez des garçons tenir ce genre de propos? Est-ce que vous y croyez? Jusqu'où? Comment vous êtes capable? J'étais vraiment pas sûre ce jour-là de poser cette question. Hein. Je pense que c'est intéressant de la poser, parce que je crois que c'est certain, de toute façon, pour l'avoir vu dans plein de groupes, effectivement, les types qui connaissent parfaitement la théorie et qui, par ailleurs, ont des comportements hyper sexistes, ben, en fait, c'est aussi rappeler à tout le monde que ça va pas suffire de bien connaître la théorie et de bien connaître les mots. Mais par ailleurs, évidemment, je ne dis pas aux jeunes garçons que j'ai en face de moi, je pense que vous êtes tous des violeurs en devenir, et je ne dis pas ça, évidemment. Bon, voilà, tout ce magma de choses...
En fait, les privilèges sociaux vont entraver l'esprit critique si on n'y fait pas gaffe, quoi. Le fait d'être un mec et de connaître la théorie sexiste, comme tu dis, tout en se comportant comme un sexiste, ça c'est causé par un aveuglement des privilèges, peut-être.
C'est une question épineuse formulée comme ça. J'ai du mal à croire que ce soit un aveuglement. C'est ça le truc. Je pense que oui. Oui, les privilèges sociaux empêchent l'esprit critique, mais je sais pas comment dire. Je pense que ces mecs-là, là, dont je parle, les gauchistes féministes qui, selon moi, peuvent souvent être les pires des violeurs, ils le savent très bien. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des personnes cultivées, ce sont des personnes intelligentes, mais qui se remettent pas en question, en fait, qui remettent pas en question leurs pratiques et en fait, c'est le mot aveuglement qui me fait tiquer. Non, je pense que c'est plutôt un manque d'honnêteté intellectuelle, un manque de courage et une trouille, quoi. En fait, la trouille de justement lâcher ses privilèges, en fait, c'est tellement plus simple de dégueuler sa théorie bien apprise par cœur dans le but de séduire. En fait, il n'y a rien qui change. Genre, juste, t'as appris un nouveau discours, en fait. Voilà, t'as une nouvelle méthode de hameçonnage ou de je sais pas quoi. Et c'est pour ça que moi, en médiation avec les gamins, je trouve ça hyper important de leur dire « C'est génial que vous connaissiez la théorie. C'est trop bien que vous soyez capable de définir le consentement. Regardez-vous faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. » En fait, c'est un truc à pas lâcher. Et vraiment, de nouveau, sans culpabiliser les gamins, puisque souvent, on fait aussi le détour par ça. On a fait ça avec des jeunes une fois, je fais vite, c'est quoi les tabous? Non, pourquoi les tabous sont des tabous? Et en fait, c'est parce que c'est la société. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, c'est quoi la société? On traîne, on passe par mille trucs, l'État, la populace, nanana... Alors, la société, c'est l'éducation. ok, intéressant, mais en fait, c'est quoi, c'est qui l'éducation? Et du coup, oui, on se rend compte que on est façonné par tout ce qui nous entoure. On est d'abord façonné par nos parents, puis par nos expériences, puis par l'école, puis par tout ce à quoi on a accès. En fait, on est façonné tout le temps par voilà, du coup, ces choses qui vont devenir nos biais. Et du coup, on est éduqué constamment, on est façonné, et donc il faut se regarder à l'œuvre, quoi, se voir agir. Parce qu'en fait, apprendre une nouvelle leçon, ça va pas transformer les expériences acquises en claquant des doigts du jour au lendemain et faire de nous la personne qu'on a envie d'être.
Oui, finalement, l'esprit critique va finir par être douloureux si on attaque ses propres privilèges.
Et ben ouais, c'est parce que ça fait trop mal de savoir qu'il faut pas agresser, mais d'arrêter d'agresser. Alors bon, du coup, pardon, j'ai choisi cette brèche-là, je m'y tiens, mais
bon. Il y a plein d'autres exemples.
Oui, c'est ça. Il y a évidemment plein d'autres exemples. Ouais, ça pour le coup, oui, ce serait trop douloureux, quoi. Et il y a trop à y perdre. Il y a tellement à y gagner de savoir le dire et de le dire bien, et il y a trop à y perdre de l'appliquer. Et si en plus ça suffit de le dire mais de ne pas le faire, banco, on est quand même sur un rapport coût-bénéfice assez efficace, quoi. Jusqu'à ce que.
Jusqu'à la révolution.
Ouais, c'est ça.
Du coup, on en revient à la grosse question. Question plus générale, mais on tourne autour, en fait, depuis un moment. Qu'est-ce que c'est l'enjeu de l'esprit critique? Est-ce que c'est plutôt... se déconstruire, éduquer les masses, attaquer les croyances populaires, élargir les possibles.
Effectivement, c'est the question. Moi, je dirais, dans ce qui m'intéresse, et aussi, malgré tout, j'ai quand même beaucoup dans la tête quand je réponds à cette question que je travaille avec des adolescents, en fait. Et du coup, je le pense beaucoup en regard des adolescents. Et des adolescentes, évidemment. Pour moi, c'est beaucoup se situer, quoi. C'est se situer et analyser le monde et pas se laisser balader. Et du coup, oui, l'esprit critique en général, éduquer les masses... Alors, cette phrase-là, elle me fait un peu mal quand même, éduquer les masses. Je suis pas hyper fan. Oui, élargir les horizons, Inch'Allah faire la révolution. Bon. Ah oui, j'ai du mal à y répondre bien. J'ai l'impression qu'il y a tout ça, mais il y a aussi vraiment, pour les jeunes, Enfin, moi, j'ai envie vraiment de faire un contrepoint de l'éducation nationale, en fait, aussi. Enfin, je me dis, quitte à travailler en partenariat, il faut vraiment que je puisse proposer un contrepoint.
Et donc, qu'est-ce que t'attends de l'éducation à l'esprit critique? Peut-être d'un côté, avec tes méthodes. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut attendre, enfin, selon ce que t'en vois et ce que t'en penses, de l'éducation à l'esprit critique par l'éducation nationale?
Je pense que dans le cadre de l'école, il n'y a pas ou peu d'éducation à l'esprit critique, en fait.
Pourtant, c'est vanté dans tous les programmes.
Ah, moi, je suis plus à l'école depuis un moment, hein, évidemment. Mais moi, j'ai souvenir de mes cours, que ce soit au collège ou au lycée... Mais jamais de la vie t'es critique d'un cours d'histoire. Moi, je me souviens même pas avoir bossé sur la guerre d'Algérie. Personne ne nous dit qu'on pourrait appeler les dom-toms des colonies. Voilà, on n'est pas critique de ces choses-là. Et pareil, dans ce rapport à la critique, j'ai bossé dans un autre établissement scolaire avec donc les méthodes là dont je parle depuis le début, éducation populaire, pratique artistique. Et on m'invite à parler de la thématique du racisme. Alors, je le précise, puisque vous ne me voyez pas, vous, dans le podcast, de l'autre côté, je suis une femme blanche, et on m'invite à parler du racisme. Et ma camarade, qui est avec moi, est blanche aussi. Et les gamins avec qui je travaille, ils sont blancs. Tous. Toutes. Bon, bah, le premier truc que j'ai fait en arrivant, c'est de leur dire « bonjour » et « pardon ». Nous allons travailler ensemble sur quelque chose que l'on ne vit pas, hein, clairement, dont on ne peut pas avoir notion vraiment de manière sensible. Ce sera toujours à distance de nous, forcément. Bon, maintenant on est là. Peut-être j'aurais pu commencer par refuser le poste, hein, mais j'avais envie de faire du théâtre avec les gamins. Bref. Et du coup, on a parlé du réel. Nous, on a commencé par faire un brainstorming. On a écrit racisme au tableau et on a dit chacune son tour, on va écrire ce qui nous passe par la tête. Et du coup, ça, c'est pareil. De nouveau, moi, je bosse beaucoup sur pas mettre de censure. Jamais. parce que c'est aussi dans les débordements, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Voilà, et il y en a eu dans le cadre de ce brainstorming, et donc on s'est retrouvés à parler de trucs qui étaient très actuels, l'affaire Adama Traoré, l'affaire Théo, l'affaire Ziad Ebouna, et il y avait tout en même temps aux 20h de toute façon à cette période-là, hein, c'était vraiment l'année faite pour ça, et du coup on a parlé de ça avec les jeunes, parce que c'était le réel, parce que c'était ça qu'on vivait, on pouvait dire que ça, entre guillemets, du racisme depuis où on était. Nous, bande de blancs, il n'y en a jamais un qui a été contrôlé par un keuf dans sa vie, et on ne le vit pas à aucun endroit. Par contre, ce qu'on voit, c'est de l'ordre du fait divers. Et en fait, on se rend compte, si on va plus loin en cherchant avec les jeunes, que, en fait, on n'est pas que sur du fait divers. En fait, on est sur une organisation, une oppression systémique. Et en fait, oui, au même titre que notre système est patriarcal, en fait, notre système est raciste, de fait. La police est raciste, de fait. Et du coup, oui, moi, je vais travailler ça avec les jeunes parce que c'est la vérité et que les chiffres sont là. Moi, je peux décemment pas dire que la police protège. En fait, c'est un mensonge chiffré. Voilà, donc on est allé là-dessus avec les jeunes. Et donc, ta question de départ, c'était qu'est-ce qu'on a à attendre de l'esprit critique à l'école et qu'est-ce que je peux avoir à attendre de la poursuite de mon travail en termes critiques. Moi, j'attendrai, j'y crois peu, mais que l'école devienne critique. Ce qui a été fait d'autre dans le cadre de ces ateliers sur le racisme, donc d'autres ateliers en parallèle du mien, ça parlait que des fins ou des trucs qui étaient plus loin. On parlait de la fin de l'esclavage, on parlait de la Shoah, et puis de sa fin, et de ses loins. Alors les seuls qui ont fait un travail qui était plus contemporain, c'était aux États-Unis. Donc c'était quand même pas chez nous. Et personne n'ose aller sur ce qu'il y a au plus proche des jeunes. Et je parlais tout à l'heure de se situer et trouver sa place dans le monde et être critique du monde dans lequel on vit. Ces mômes-là, tous les parents regardent le 20h. C'est des trucs qu'ils voient tout le temps. En fait, souvent on a envie de pseudo-protéger les jeunes, etc., en mettant à distance. En fait, la vérité, c'est qu'ils y sont confrontés tout le temps, de toute façon, et qu'ils vont y être confrontés. Quand je dis qu'on a abordé l'affaire Théo, Adama, Ziad Ebouna, etc., c'est pas moi hein, qui suis arrivée en disant on va parler de ça. J'avais pas de plan. Mon seul plan c'était de leur dire on est que des blancs et des blanches, alors on va faire ce qu'on peut quoi. Et bien sûr que je préfère parler de ce qu'il y a au présent, mais en fait c'est eux qui l'ont amené. Parce que bien sûr que ça les travaille, puisqu'ils y sont confrontés. Et donc là ça a permis de prendre du recul, etc. Et c'était vraiment intéressant. Et évidemment, pareil, ce groupe-là m'a parlé du racisme anti-blanc. Mais bien sûr, on se disait tout à l'heure, les privilèges sociaux entachent notre esprit critique. Et ben là, c'est la même chose. C'est qu'en fait, si les blancs, au fond, on est tous un peu racistes, alors déjà, ça nous fait mal de l'admettre. Ça nous fait mal d'admettre qu'on peut être un peu responsable de quelque chose. Ça nous prendrait trop de temps, comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de se remettre en question, etc., de plus faire certaines choses. Voilà, ah merde, c'est peut-être une mauvaise idée que je me fasse des tresses collées. Comment je vais bien pouvoir me coiffer autrement ? Voilà, et du coup, les jeunes arrivent avec cette chose qu'est le racisme anti-blanc, surtout qu'il y a une des jeunes adolescentes qui est là à l'époque, son père a bossé au Brésil, je crois, son père blanc va bosser au Brésil et subit le racisme anti-blanc. Du coup, on va questionner ce truc-là. Et donc, on s'est retrouvés à parler de la mécanique oppressive. C'était du coup hyper intéressant, et les jeunes sont très capables de capter que le racisme anti-blanc, ça ne peut pas exister. Parce que ça n'est pas érigé en système, et que oui, peut-être des Noirs ou des Arabes vont te bizut parce que t'es blanc ou que t'es blanche. Oui, mais ça t'empêchera pas de trouver un appart, un travail, de pas te faire contrôler 3 fois par jour dans la rue, de te sentir en danger, etc. Et les jeunes sont très capables de le comprendre, mais il faut proposer de le questionner, en fait, et il n'y a pas ou peu de propositions de critiques à l'école. Je pense que l'histoire, ce serait un des trucs les plus importants. Ou les cours d'éducation civique. Alors, je ne sais plus quel nom ça a maintenant et comment ça se déroule, mais il y a peu de critiques. On nous dit la démocratie, c'est ça. La République, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Et nos ancêtres les Grecs, et puis voilà, enfin, on questionne pas vraiment comment marche le pouvoir, on ne donne pas le taux d'absentéisme à l'Assemblée. Les gamins doivent passer par la vie scolaire avant d'arriver en classe s'ils ont été absents. Les gonzes sont jamais à l'Assemblée. Enfin, À quel moment, quoi? Et ça, on le dit pas aux gamins. On le dit juste pas, alors que de nouveau, c'est juste la vérité.
Alors, qu'est-ce que tu penses quand on te répond que oui, mais ton militantisme te biaise dans ta réflexion et ton esprit critique?
Alors, eh ben, c'est quand même une question que je me pose, voire c'est une peur que j'ai. Je suis un peu constamment en train de chercher le bon rapport, mais notamment parce que je travaille avec des personnes qui sont plus jeunes que moi, et donc un peu par définition de toute façon plus influençables, que je suis dans un cadre de transmission, qu'en plus j'ai quand même le bénéfice de la coolitude parce que je suis jeune, je leur parle comme je suis en train de parler là, et je fais du théâtre, quoi, donc je suis vraiment... J'ai pas le même statut de fait, donc je fais vraiment attention à ça. Et en même temps, c'est comme ce que je disais à l'instant, en fait, mon militantisme, il repose sur des vérités. Et des vérités qui sont chiffrées. C'est-à-dire que le taux d'absentéisme à l'Assemblée, on le connaît, on peut en parler. Et du coup, juste, soit on le dit, soit on le dit pas. L'affaire Théo, soit on en parle, soit on n'en parle pas. Et soit on en parle avec les mots qu'il faut, à savoir, c'est un viol, la police a commis un viol sur cette personne qui n'avait rien demandé. Soit on dit oui, non, mais c'est parce que peut-être il avait la matraque dans la main et il a glissé, et dans la glissade, le pantalon du mec s'est baissé, et pardon, enfin, on ne peut pas dire ça, on sait que c'est faux. Voilà, du coup, je pense que je crois pas que mon militantisme me biaise dans mon esprit critique, et je pense que plutôt au contraire, j'ai assez une attention à ça, à... pas tout le temps, parce que effectivement c'est aussi fatigant, mais de rester ouverte. Moi, je crois toujours que je vais pouvoir changer d'avis sur certaines choses, alors pas sur tout, tu vois, mais j'écoute quand même mes interlocuteurs avec attention. J'essaie de lire des choses qui me contredisent en les lisant pas d'emblée avec distance, quoi. Enfin, du coup, c'est comment tu mets en branle ta capacité d'analyse tout le temps. Et donc, je fais un détour par un truc un peu marrant. J'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito avec le président.
Je ne l'ai pas vu.
Regarde-la. C'est un scandale, mais regarde-la. Donc, je regarde cette chose. Je ne vais pas faire la critique de cet objet vidéo maintenant, mais je traîne et je veux regarder un peu des critiques qui ont été faites de ces choses-là. Et je tombe sur une critique du Figaro. Et du coup, ça me fait un peu rire de lire un écrit du Figaro qui va critiquer cette vidéo-là. Et du coup, sur plein de points où le Figaro et moi allons critiquer de la même façon cette vidéo, et où du coup, je vais avoir des points de rencontre avec le Figaro. Oui, mais parce qu'en fait, il y en a, c'est possible. Et par contre, je vois et je revois et je réaffirme mon désaccord sur certains points où en fait... Eux, ce qui leur pose problème aussi, c'est comment le président ne se comporte pas du tout comme un président, et même qu'à un moment, il dit « putain !» Du coup, c'est hyper drôle, quoi. Et donc, je trouve ça intéressant de se confronter à ça, tout en se laissant la possibilité de se dire « là, j'ouvre l'article du Figaro, et peut-être je vais être d'accord avec le Figaro jusqu'au bout. » Peut-être. En fait, c'est possible. Il y a des endroits où, je sais pas, comment je pourrais faire un pourcentage de cet article de... Jusqu'où je suis d'accord avec eux et sur quel pourcentage on est complètement en désaccord, mais... Bon, voilà, je pense plutôt j'ai l'esprit critique ouvert et j'ai cette attention-là à justement pas balayer trop vite les choses d'un revers de main. Mais je pense que ça me biaise à certains endroits, mais forcément.
Oui, après, on peut se poser la question, est-ce que c'est grave d'être biaisé? Est-ce que tout le monde l'est pas, finalement? Est-ce que y a certains biais qui sont... plus constructif que d'autres, disons.
Oui, oui, carrément, et c'est aussi sur quoi tu te bases, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, on va jamais reprocher aux personnes qui valorisent et bossent pour l'ordre établi de le faire et d'être biaisées, et d'être biaisées par la norme dominante et de tout faire comme on attend d'eux. Ça n'a pas de sens. Ça n'arrive pas. Et du coup, c'est quand tu fais un pas de côté et quand tu te places en opposition... qu'on vient chercher la petite bête, mais c'est comme la blague que je faisais tout à l'heure au café. Ah oui, mais t'es vegan et t'as un smartphone, quoi. Oui, et alors, en fait, on pourrait parler de la question de la pureté militante, ce serait intéressant aussi. Voilà, comment il y a toujours un truc à reprocher et à venir titiller chez les personnes qui se mettent en opposition.
Biaisé par la norme, c'est marrant formulé comme ça, bah ça ouais. semble être un oxymore.
C'est clair.
Ouais, c'est chelou formulé comme ça.
Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant.
Bon, pareil, on a un peu déjà répondu, mais pourquoi toi, ça te paraît naturel d'associer l'esprit critique et des questions politiques, par exemple la remise en cause des oppressions systémiques, et pourquoi ça l'est pas du tout pour d'autres personnes. Là, je pense, en mettant les pieds dans le plat, à beaucoup de gens dans la sphère sceptique.
Ouais.
Et pourquoi, pour eux, ça paraît plus naturel d'appliquer l'esprit critique directement à des croyances populaires.
Mais ça, c'est hyper fastoche. C'est parce que si moi, j'applique l'esprit critique à la sphère politique, c'est parce que je subis des oppressions. Je subis notamment l'oppression patriarcale et sexiste de plein fouet, que j'en ai conscience et que je milite pour ça. Et du coup, j'ai l'impression que formuler que j'applique l'esprit critique à la sphère politique, c'est vraiment un truc après coup. Je pense plutôt dans l'ordre. Je subis à mort l'oppression sexiste, je le vis mal, du coup je milite, et du coup je théorise, et donc tout ça s'organise et fait que au final, on dit, là maintenant que j'ai 25 ans, que j'applique l'esprit critique à la sphère politique. Je pense que ceux qui ne le font pas, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure sur la question de connaître la théorie et de ne pas l'appliquer à son existence, c'est que c'est trop compliqué, c'est que c'est trop douloureux. Et du coup, quand t'es un mec blanc, cultivé, qui en plus manipule bien l'esprit critique et les mots et la pensée, etc., c'est quand même bien plus simple de continuer d'utiliser de son pouvoir pour dire aux gens « Vous êtes quand même un peu des cons, on va pas vous le dire comme ça, mais vous êtes quand même un peu des cons de croire qui aux extraterrestres, qui aux soucoupes volantes, à l'homéopathie, à je ne sais quoi, et je vais vous apporter la connaissance, parce que c'est beaucoup ça qui se fait, que de se rendre compte qu'on est de toute façon en train d'utiliser un pouvoir quand c'est ça qu'on est en train de faire. » Et c'est pour ça que j'étais un peu dérangée tout à l'heure par la formule « éduquer les masses ». Et je pense que c'est un peu ça qui se joue à certains endroits... Dans la sphère zététique.
Là, je suis hyper gênée parce qu'elle vient de me décrire, en fait.
Mais moi, je suis hyper à l'aise que je suis face à quelqu'un qui fait la démarche de venir questionner ces choses-là et le mettre en perspective.
Là, je suis gênée parce que je vais prendre la grosse tête.
C'était l'instant compliment, remerciement en avance de phase.
Pour finir, j'avais 2-3 questions sur la place de l'art et de l'esprit critique.
Ouais.
Ouais, je sais pas trop comment formuler ça, mais comment utiliser l'art dans l'esprit critique, en fait, et inversement, comment l'esprit critique peut intégrer l'art? Parce que très souvent, quand on parle d'esprit critique, on associe ça tout de suite à la science, voire carrément aux neurosciences, quoi, à la rhétorique, à la logique. On reste dans des domaines très scientifiques. Très souvent, quand on met en scène graphiquement l'esprit critique, l'image qui vient tout de suite, c'est un cerveau.
Un cerveau, ouais.
Voilà. Du coup, ouais, comment on fait pour en parler autrement, pour que ça soit pas un discours descendant avec des arguments super construits, un discours logique, une dissertation de philo, quoi.
Genre, comment on ferait un spectacle de théâtre sur la possibilité de l'esprit critique
Par exemple, parce que c'est ton domaine, mais tu vois des idées.
Ben, je sais pas, c'est un peu compliqué. Alors, je vais répondre à côté de la question. Peut-être ça me fera aller vers y répondre mieux ensuite. Mais sur une pute au coin de la rue, par exemple, notre premier spectacle, je sais pas comment on dirait qu'on utilise l'esprit critique. Enfin, tu vois, de nouveau, c'est proposer un point de vue situé qui ne pourra pas tout dire, mais qui vient, du coup, se mettre là, de nouveau, en contrepoint de la norme et du discours établi sur ces questions-là. Et du coup, c'est vraiment proposer l'esprit critique, c'est proposer au public un point de vue, un discours, et en même temps, ils seront très certainement d'accord avec, s'ils étaient déjà d'accord avec au départ, ou... Si, bien sûr qu'au fond, nous, on a un peu cette envie d'allumer une étincelle chez les gens et que du coup, ils ressortent en se disant « Ah oui, peut-être c'est pas si juste ce que je me disais de tel machin. Mais de nouveau, sur la question de l'esprit critique, du militantisme et du point de vue, on arrive avec notre vérité, quoi. Et du coup, on est critique de la norme plus que critique en général et on apporte une vérité. Du coup, si on va un peu plus loin, je sais pas trop comment on ferait un spectacle sur l'esprit critique ou sur l'idée de l'esprit critique, mais j'imagine que ça pourrait se faire. Enfin, tu vois, que si on s'y collait demain, toi et moi, en se disant ok, les notions dont on veut parler, c'est celles-là, en fait, ça pourrait être hyper marrant. Vas-y, ok, je pitch. Hyper marrant d'avoir un mec, un ponte de la zététique et de l'esprit critique qui se met bien, et un jour, je sais pas, moi... tous ses collègues, au fur et à mesure, se font le grand remplacement, se font remplacer par des femmes, voilà, des femmes et des personnes racisées. Et en fait, il se fait confronter tout le temps. Et puis, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Après, la fiction, elle continue, mais on pourrait raconter une histoire. Voilà, la chute du privilège de Jean-Michel Zététique. Bon, voilà, on invente une fiction, quoi, et on vient parler de cette chose-là. Et du coup, on peut articuler. Et du spectacle, et de la poésie, et des images, et un discours, en fait, comme on le fait tout le temps.
Jean-Michel Zététique, tu l'as imaginé avec une blouse blanche et des lunettes ?
Non, non, il avait plutôt un petit côté banquier.
Ah ouais ?
Ouais, non, il avait pas la blouse, parce que Zététique 2021, il est cool un peu,
ah ouais.
Quand même. Mais il a 45 ans. Mais il est cool.
Tu m'avais dit la dernière fois que... par rapport à la pièce que vous jouez en ce moment, le spectacle sur le genre, tu encourageais la critique esthétique de ta pièce et la critique rationnelle du propos que portait la pièce. Alors, c'est quoi la différence que tu fais entre les deux ? Pourquoi ces deux critiques, elles sont intéressantes ?
Alors du coup, c'est pas exactement juste sur le spectacle, c'est aussi pas mal dans les ateliers que je mène avec les jeunes. C'est que du coup, j'essaie de travailler l'esprit critique avec eux. Sur les thématiques qu'on aborde, que ce soit voilà, des thématiques de genre, de questions de sexualité, de racisme, de discrimination, etc. On est critique du sens, critique du fond. Et par ailleurs, quand on est en travail de pratique artistique, en jeu, en mise en scène, là je suis sur la réalisation d'un film avec des gamins, j'essaie d'aiguiser leur sens critique, dans le sens d'être capable de dire... ah, quand t'as bougé de telle façon, j'ai trouvé ça hyper beau. Ok, mais pourquoi ? Moi, je les oblige à toujours répondre d'eux-mêmes sans que je pose la question, à la question pourquoi. Et du coup, c'est aiguiser sa propre subjectivité. Bon, voilà, et aussi mettre les mots dans l'ordre, essayer de bien comprendre déjà ce qu'on ressent et ce que ça nous fait, même si, du coup, on est vraiment sur des choses qui, à cet endroit-là, sont pas forcément tangibles. Je peux trouver ça beau que t'aies bougé comme ça, parce que ça m'a fait penser à tel truc, ou juste c'est pas hyper clair pour moi, mais je sais pas, peut-être le mouvement il était vraiment saccadé, et du coup ça créait tel effet, et donc moi j'ai trouvé ça bien. Et le poteau à côté, il va pouvoir dire, ah non, moi j'ai trouvé ça, ça m'a pas touché du tout, parce que... et il se racontera une autre histoire. Mais du coup, comment on... En fait, c'est aussi de la prise de position. Et je trouve que les deux s'alimentent bien... parce que ça vient aussi proposer, de nouveau, dans le cadre du travail avec les adolescents, ça vient proposer d'assumer sa place, et d'assumer qui on est, et d'assumer la légitimité qu'on a à dire ce qu'on dit. Et c'est ça qui est assez génial dans le cadre artistique, c'est que souvent, y a plein de choses qui sont pas hyper tangibles. Il y a vraiment un endroit où tout est OK à dire, plus que sur certains sujets. Quand on parle du sujet, mais quand on parle de la forme, voilà, il y a plus d'ouverture et je trouve ça intéressant.
En fait, ça montre que on a beau avoir les arguments les plus rationnels possibles, les plus réfléchis possibles, ça dit pas comment il faut se positionner par rapport au sujet, ce qu'il faut penser, comment agir.
Oui et non, je dirais que quand on est sur la question du sujet et pas de l'objet, du coup sur la question du fond et pas de la forme, on peut vite être beaucoup plus prescriptive. Et prescriptif quand il s'agit de sens. Quand il s'agit de forme, je peux décemment pas te dire si le mouvement saccadé dont on parlait tout à l'heure, il est beau et il fonctionne parce que telle et telle raison. Vraiment, c'est pas possible. Ça se tient pas debout. Quand on parle de l'esthétique, on peut pas être aussi prescriptif. Si un gamin me soutient dur comme fer que si le racisme anti-blanc ça existe, je peux décemment pas lui dire que oui. Il y a aucun moment, à moins qu'il arrive avec des arguments béton, ou alors, j'en sais rien, il me dit que je ne sais où dans le monde, il y a un pays où le racisme anti-blanc existe vraiment. et où toute l'oppression est renversée, et effectivement, les personnes racisées ont le pouvoir, les blancs sont exploités, dominés, oppressés. Ok. Du coup, dans ce cadre-là, si j'ai des preuves que ça existe, je pourrais dire, ah oui, le racisme anti-blanc existe, là-bas, dans ce cadre-là. C'est vraiment jusqu'à preuve du contraire. Voilà, du coup, je pense quand même que c'est ça. Sur la question du sens, il y a plus une vérité. Souvent, pas tout le temps.
Ouais, moi, j'arrive au bout de,
ouais, on a fait le
de
tour.
Ce que je voulais te demander. Je sais pas si t'as un dernier truc à rajouter.
Non, je crois pas. Si, allez voir... Ah non, mais je sais pas quand est-ce que ça sortira, cette chose. Mais il faut absolument aller voir le film Promising Young Woman, qui est en train de sortir en ce moment. Là, nous sommes actuellement début juin 2021. Mais regardez-le, ça, en termes de critique de l'ordre établi et de mise en scène de principes féministes et de théories féministes, c'est une pépite, c'est de la bombe.
Entendu. Super, merci beaucoup.
Merci beaucoup, David.
Merci à Perrine pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Les Dubitaristes, c'est une association basée à Bordeaux. N'hésitez pas à suivre nos activités si le sujet de l'esprit critique vous intéresse ou si vous avez envie de vous impliquer. À une prochaine et que le doute soit avec vous.